Frères et sœurs, voici quelques jours à l'approche de la première fois où je vais avoir cette joie de prêcher l'Évangile pour vous, avec vous, pour nous tous, dans la paroisse que je vais servir cette année. Je me suis dit, oh, si seulement c'était l'Évangile du gérant malhonnête. Coup de bol, c'est celle-là. Alors, on va être servi, vous voyez, parce que c'est une parabole qui m'a beaucoup travaillé, hein, qui perturbe, qui gêne, qui met un peu mal à l'aise à première audition. Et je me demande d'ailleurs quelle tête ont bien pu faire les auditeurs de Jésus à l'écoute de cette parabole. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête. Et bien des chrétiens des temps modernes éprouvent un embarras, une perplexité devant une telle histoire, et surtout parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce qu'elle soit racontée, proposée par Jésus, l'homme dont nous sommes bien certains qu'il n'a jamais de toute sa vie commis la moindre malhonnêteté, et que son rapport à l'argent fut totalement irréprochable, pour la bonne et simple raison qu'il n'avait pas un sou dans ses poches. Alors, bien chers frères et sœurs, je vous invite à deux préalables, trois même, préalables indispensables. Bien voir à qui Jésus s'adresse ici, nous rappeler qu'il s'agit d'une parabole et bien situer la scène par rapport à ce qui la précède, à savoir deux autres paraboles. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, il s'agit de ses disciples, alors que nous le savons, dimanche dernier, en quelque sorte, Jésus s'adressait aux pharisiens. Et c'est pour eux qu'il racontait la parabole de la pièce d'argent perdue et retrouvée, de la brebis perdue aussi, il y en a trois en fait, et du fils prodigue. Et il s'agit d'une parabole et pas d'une histoire. Je pense que vous avez tous fait un petit peu de caté pour savoir la différence entre une parabole et une histoire. Oui, ça va, hein ? Parabole, c'est un mot grec qui veut dire jeter de côté, mettre sur le côté, presque mettre à côté. Ça laisse entendre que c'est une histoire pas comme les histoires. Il y a quelque chose dans l'histoire qui sonne pas, mais volontairement, hein. Volontairement. S'il s'agissait d'une histoire ici qui rapporterait des faits avérés, vérifiables, de la vie quotidienne, de la société, frères et sœurs, comment imaginer un seul instant qu'un détenteur d'une très grosse fortune, d'un très gros capital, qui aurait été informé de manière sûre et certaine que son homme de confiance, le gestionnaire de sa fortune, le trompait et détournait des fonds à son profit, et qui aurait en conséquence décidé de le licencier purement et simplement, sans aucune indemnité, bien évidemment, et même avec menace d'un procès, comment imaginer qu'il puisse lui dire « Mon cher ami, vous êtes viré, rendez-moi compte de votre gestion. » Pas la peine qu'il rende compte de sa gestion, elle va être toute fausse. Alors voilà, on est dans une parabole. On est dans une parabole. Dans la pièce d'argent perdue, la brebis égarée, voilà, le fils prodigue, Dieu vient au secours de ceux qui se perdent. Il ne cesse pas d'être à leur recherche, c'est la bonne nouvelle pour tous ceux qui se savent ou se reconnaissent pécheurs. Et c'est le malheur des pharisiens de se croire parfaits et justes, de ne pas pouvoir accueillir une once de la tendresse, de la miséricorde de Dieu. Eh bien, c'est la même chose pour hier, s'il y a eu des Matthieu parmi vous, bonne fête, avec 24 heures de retard. Voilà, parce que Matthieu, c'était un publicain, c'était quelqu'un qui ramassait de l'argent pour les Romains, et qui n'était pas payé en salaire, mais qui avait sa commission. Donc il faisait ce qu'il voulait, évidemment. Donc il était copieusement détesté de la population, d'un collabo en plus. Jésus, sans ni plus ni une ni deux, lui dit « Viens, suis-moi », et il le suit. Mais ici, nous sommes dans une toute autre situation. Voilà quelqu'un qui a un très beau métier, qui rapporte énormément, parce que non seulement il a le salaire que lui donne son maître, mais il y a tout ce qu'il gruge de la fortune de son maître. C'est quand même génial. Excuse-moi, je dis ça bien sûr de son point de vue à lui. Hein. Voilà. Un homme fraudeur, malhonnête, sa malhonnêteté est maintenant dévoilée. Il n'a aucun moyen de se justifier. Il sait que son compte est réglé, si je puis dire, et les comptes sont réglés. Il a tout perdu. Alors sa question n'est pas tellement de savoir qu'est-ce que je vais faire auprès de mon maître. Il est licencié, il est viré, Qu'est-ce que je vais faire pour l'avenir? De quoi vais-je vivre? Alors cet homme est très très clairvoyant, hein. Il se dit, bon ben, je vais changer de métier, alors cette fois-ci il va falloir que je travaille, même travailler la terre. Non, moi non. Moi qui n'ai jamais travaillé de mes deux mains, mais simplement avec mon intelligence, non. Ben, je vais faire la manche. Alors quand même, là c'est la honte, là c'est la déchéance complète. Qu'est-ce que je vais faire? Mais voilà ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il fait ce qu'il a toujours fait. Mais alors, là, dans les grandes largeurs, dans les grandes hauteurs, dans les grandes longueurs, il va mettre le comble à sa malhonnêteté. C'est ça qu'il fait. Mais comment le fait-il? Non pas en truquant lui-même les comptes, mais en se créant un réseau de relations qui vont lui permettre de s'assurer un autre type de magot qui s'appelle des complices. Vous noterez bien que ce n'est pas lui qui écrit sur le petit reçu les sommes. Il dit à l'autre, écris. Allez, mouille-toi toi aussi. Mouille-toi dans l'affaire. Et d'ailleurs, apparemment, aucun de ceux à qui il propose ce marché donc scandaleux ne refuse. Ils sont tous complices. C'est un très beau réseau. C'est vraiment une connection fantastique. Voilà pourquoi il nous est dit que le maître fait son éloge. Le maître ne fait pas son éloge parce qu'il veut dire par là « j'aurais dû être malhonnête comme lui, voilà, oh, en fait c'est vraiment la malhonnêteté qui est bien, tous mes domestiques devraient être des malhonnêtes, c'est parfait la malhonnêteté ». Non, non, ce qu'il admire, c'est que cet homme soit allé jusqu'au bout de ce qu'il a appris à être comme une seconde nature, fraudeur, grugeur, dissimulateur. En d'autres termes, cet homme s'est dit « perdu pour perdu ». Vis-à-vis de mon maître, autant l'être totalement. Alors est-ce que pour nous, ça n'est pas exactement l'inverse? Puisque Jésus s'adresse à ses disciples, hein, et ne pas aux pharisiens dont il est dit qu'ils aimaient beaucoup l'argent. Il dit à chacun de nous, sauver pour sauver, sois-le totalement. Pas à 30%, pas à 50%, mais le comble au salut dans ta vie. Je pense que c'est une pointe de la parabole. Il y en a une autre aussi qui m'est venue de la part d'un prédicateur donc sur RCF ce matin, parce que dans la vallée du Loir, on ne capte pas RCF, mais au Mans, oui. Et donc le frère Colin, dominicain, préposé à cette commentaire plutôt, ce n'est pas une prédication, donnait aussi un élément intéressant et nous a dit, ici, il y a une figure, la figure de l'intendant malhonnête, on pourrait dire qu'elle est, alors bien sûr, en rapportant les choses à ce que je viens de dire, hein, c'est la figure de Jésus. Jésus est l'homme qui a passé sa vie à gaspiller l'amour, à dilapider l'amour, à ne jamais commencer à calculer « Ah là, ça va, c'est bon, bon placement, mauvais placement ». Jamais, jamais, jamais. Vous voyez ce que je veux dire par là? L'amour, vraiment, il se donne, et plus il est donné, quand tout est donné, tout est reçu. Et c'est le meilleur placement pour le ciel. Quand Jésus parle de l'argent malhonnête, il ne veut pas dire que l'argent en soi est malhonnête. Comment une pièce de monnaie peut-elle être malhonnête? C'est un jugement moral, ça. Mais c'est l'usage de l'argent qui peut devenir malhonnête et qui peut devenir un esclavage. De là, évidemment, nul ne peut servir deux maîtres. Il faut choisir entre Dieu et l'argent. Mais quand on a choisi Jésus et l'amour, alors l'argent peut être un mode, quelque chose qui va servir à propager l'amour de Dieu. Pourvu que je ne retombe pas, bien sûr, dans l'esclavage de l'argent pour lui-même. Voilà qui est merveilleux. Voilà la bonne nouvelle. Répondons-la. Amen.